Donc Marc 5, 21. Peut-être je vais lire dans la même traduction qui s'affiche. Marc chapitre 5, verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur. » « Crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ceux qui ont pris le temps d'écrire ces récits avec précision et sous la conduite de ton esprit. Nous te prions maintenant pour que ce même esprit nous aide à comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Amen. Jeudi, lorsque nous avons eu notre rencontre du Parcours Alpha, eh bien, il se trouve que le thème de cette semaine était « Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?» Et quand on s'arrête sur ce passage qui nous prépare d'une certaine façon à vivre Pâques, parce que ce passage nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, a déjà remporté la victoire sur la maladie, eh bien, nous sommes confrontés aussi à notre réalité, à la réalité de notre monde. Nous savons qu'il y a des malades autour de nous. Nous avons parlé de Molly, cette jeune femme qui lutte et qui est entre la vie et la mort. Et même si nous avons plaisir à retrouver Maurice, nous savons qu'il n'est pas complètement guéri. Et nous pensons à tous ceux qui, autour de nous, sont malades, gravement malades. Nous pensons à ceux qui nous ont quittés aussi, et dernièrement, pour ceux qui le connaissaient, le pasteur Jean-Rubin Hodge est décédé suite à un cancer. Il est parti rapidement en une année alors qu'il n'était pas très âgé. C'était un ami, je l'avais connu quand il était pasteur sur Alès, pasteur de l'église méthodiste. Il était sur Agen et il venait de prendre sa retraite. autour de nous, nous avons des gens qui sont malades. Et peut-être même que nous, nous souffrons d'une maladie particulière. Et quand nous lisons ce récit, nous pensons à cette femme qui a souffert pendant 12 ans d'hémorragie. Vous savez qu'il y avait une double peine dans sa maladie. Certainement la fatigue et toute la douleur qui découlait de cette maladie, de ces hémorragies, mais aussi l'impureté, le fait que cette femme était méprisée et rejetée dans cette société juive. C'était la double peine. Et pendant 12 ans. Vous savez, il arrive qu'on trouve que ça dure trop longtemps, que des épreuves, des souffrances ou des maladies durent trop longtemps. Je pense que 12 ans, c'est long. Et vous connaissez peut-être des gens qui ont souffert encore plus ou encore plus longtemps. Mais souffrir pendant 12 ans de la même maladie, souffrir en étant croyant et en se disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que je ne suis pas délivré ?» C'est dur et c'est long. Mais nous voyons dans ce récit aussi la foi de cette femme qui s'est dit « Mais si j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus, certainement je serai guéri. » Vous savez, souvent on s'imagine, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi on s'imagine à l'époque de Jésus. Et vous vous demandez peut-être ce que vous auriez fait. Vous savez, je suis quasiment persuadé qu'il y en a parmi nous qui ne seraient même pas allés voir Jésus en se disant « c'est pas possible ». Ce qu'on dit sur lui, toutes ses guérisons. Et même si vous aviez vu quelqu'un guéri par Jésus, vous vous seriez dit « mais moi, qu'est-ce que je vais faire? J'arriverai jamais à le voir. J'arriverai jamais à le toucher. Et si je le touche, est-ce que ça va vraiment me guérir ?» Cette femme a cru que simplement en touchant Jésus, elle serait guérie. Et cette femme s'est glissée dans la foule. Et cette femme a joué des coudes pour arriver à toucher le vêtement de Jésus. Et elle a été guérie. Et vous avez entendu et vu cet épisode qui est quasi comique. Quand Jésus dit à ses disciples, « Quelqu'un m'a touché !» Et que la réaction des disciples est, « Mais Seigneur, tu sais, il y a une foule autour de toi. Donc il y a plein de gens qui t'ont touché. Pourquoi est-ce que tu demandes ça ?» Mais Jésus sait très bien pourquoi il demande ça. Parce qu'il sait que quelqu'un a été guéri, il sait qu'une force est sortie de lui. Il sait que cette femme avait foi en lui et qu'elle a été guérie physiquement. Et vous avez vu, cette femme est effrayée parce qu'elle comprend qu'elle a été démasquée. Elle avoue. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Mais cette femme est déjà guérie. Peut-être que Jésus, d'une certaine façon, est en train de nous dire ou de nous redire que derrière la guérison physique, il y a autre chose. Ce n'est certainement pas pour rien que le mot hébreu pour parler de la guérison, c'est le même mot que celui du salut. Quand on dit que Dieu nous sauve, on pourrait dire que Dieu nous guérit. Cette femme a été guérie. Et au même moment où cette femme est guérie, alors qu'elle était malade depuis 12 ans, il y a une fille de 12 ans qui meurt. Et on dit à Jaïrus, écoute, c'est pas la peine d'embêter le maître, ta fille est morte. Et dans ce récit, on va comprendre que Jésus, fils de Dieu, a remporté la victoire sur la maladie, mais qu'il a remporté aussi la victoire sur la mort. Et il va dire à ces gens, ne vous inquiétez pas, il va dire à Jaïrus, crois seulement. Et il va dire à cette jeune fille, qui est réellement morte, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et elle va se lever. Je ne sais pas si on imagine bien ce qui a dû se passer dans la tête des gens, ce qui se passe dans la tête de parents qui voient leur fille revenir de la mort à la vie. Chaque fois que je lis ce passage, je suis émerveillé de la compassion de Jésus. Mais je pense aussi à autre chose qui me remet un peu les pieds sur terre. Et j'aimerais que ce matin, on soit à la foi à nouveau rempli d'espoir parce que Dieu peut tout guérir. Mais qu'on ait aussi réellement une foi éclairée parce que Dieu ne veut pas toujours guérir et parce que la guérison nous parle d'autre chose. Vous savez, juste après l'émerveillement, juste après avoir lu ce texte et juste après s'être dit « Mais oui, Dieu peut guérir et Dieu peut même ressusciter les morts. » Juste après tout ça, on se dit, en tout cas j'espère que vous vous dites, oui mais, cette jeune fille, je ne sais pas combien de temps elle a vécu, mais un jour elle est morte. Une deuxième fois, comme Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Et d'ailleurs, les Juifs cherchaient à le faire mourir, hein, parce que son témoignage était tellement extraordinaire, hein, chaque fois qu'il racontait son histoire. Hein. Je suis mort et puis j'étais dans le tombeau, hein, on m'avait enroulé de bandelettes. Et puis Jésus est venu, il a dit « Lazare, sors !» Et je suis sorti de ce tombeau. Son témoignage était incroyable et les Juifs cherchaient à le faire mourir, tellement il aidait les gens à se tourner vers Jésus. Mais Lazare, lui aussi, est mort une deuxième fois. On ne nous dit pas si c'est les Juifs qui ont réussi à le tuer ou s'il est mort de mort naturelle. Mais Lazare est mort lui aussi. Peut-être même qu'il a été malade à certains moments de sa vie. Qui nous dit aussi que la femme guérie d'hémorragie n'est pas tombée un jour malade d'une autre maladie. Vous savez, lorsque Jésus guérit le paralytique, vous vous souvenez certainement de cette histoire si vous la connaissez, si vous l'avez entendue. Quatre personnes qui transportent un ami. Et puis qui vont tout faire pour que cet ami soit en présence de Jésus. Cet ami est paralytique, paralysé, et ils espèrent que Jésus va le guérir. Et la première parole que Jésus prononce vis-à-vis de cet homme, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Et je le dis souvent, et je l'ai déjà dit devant certains d'entre vous, mais quand j'entends cette parole, je suis un peu surpris. Je me dis « Mais il n'est pas venu pour ça. Ses amis ne l'ont pas amené pour que ses péchés soient pardonnés. Ses amis l'ont amené pour qu'il soit guéri. » Physiquement, pour qu'il puisse à nouveau marcher. Et quand les chefs religieux qui sont à côté de Jésus, qui étaient toujours à côté de lui pour essayer de trouver la faille, pour lui tendre des pièges, ils se disent, ils ne prononcent pas une parole ou alors en chuchotant, mais ils se disent, cet homme blasphème. En disant, tes péchés sont pardonnés, il se prend pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et si Jésus guérit ce paralytique, c'est pour montrer à ces hommes et à ces personnes qu'il est véritablement capable de pardonner les péchés. Vous savez, ça ne se voit pas de suite que les péchés de quelqu'un ont été pardonnés. On peut mettre un t-shirt, mes péchés sont pardonnés, on peut mettre une casquette, on peut mettre une casquette avec un gyrophare, hein, pour que ça se voit bien, et puis quelque chose qui clignote et qui dit mes péchés ont été pardonnés, ça se verra un peu plus. Mais comment être sûr que c'est vrai ? Comment être sûr que vos péchés ont vraiment été pardonnés ? Eh bien, cette guérison a été donnée pour que les gens voient que Jésus était vraiment capable de pardonner les péchés. Et Jésus était en train de dire que c'était ça le plus important. Et que les guérisons sont le signe de ce salut, de ce pardon, de cette réconciliation, de ce monde à venir. Chaque fois que quelqu'un est guéri par la main de Dieu directement de façon extraordinaire ou par la main des médecins, vous savez, on l'a rappelé jeudi soir au Parcours Alpha, Ambroise Paré, le père de la médecine, disait « Je soigne et Dieu guérit ». Il y a des médecins qui nous apportent le réconfort, qui par leur sagesse et leur intelligence, parce qu'ils vont trouver le vrai problème, parce qu'ils vont faire un bon diagnostic, et qu'ils vont nous donner les bons médicaments ou le bon traitement. Il y a des médecins qui nous sauvent. Croyons que c'est encore grâce à Dieu. Mais souvent, les gens ne vont pas voir là un miracle. C'est une action humaine pour nous soulager, pour nous guérir parfois. D'autres fois, nous nous guérissons presque tout seuls. Je connaissais quelqu'un qui souffrait d'un handicap personnel. Quelque chose qui l'embêtait pendant toute sa vie. Et puis un jour, il s'est mis à faire du footing. Parce que voilà, c'était la mode ou c'était le 1er janvier, je ne sais pas quand on prend des résolutions. Il s'est mis à faire du footing régulièrement et son mal a disparu. Il avait souffert pendant quasiment 20 ans. Et en faisant ce footing, les médecins lui ont expliqué ensuite ce qui s'était certainement passé dans son corps. Il a été guéri de cette souffrance qui durait depuis 20 ans, simplement en courant. Peut-être que parfois la guérison est toute simple. Mieux manger. Mieux dormir, vivre et dire la vérité. Vous savez, il y avait un slogan une fois dans un magazine de santé, « La vérité, c'est bon pour la santé ». C'est génial ça, c'est nous qui aurions dû dire ça. C'est notre slogan, c'est pour nous. La vérité, c'est bon pour la santé. Le pardon, c'est bon pour la santé. La parole de Dieu, c'est bon pour la santé. Il y a tellement de maladies que nous allons éviter parce que nous vivons ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous écoutons sa parole, parce que nous entrons dans ses plans. Hier soir avec les jeunes, on a parlé de sexualité, on a parlé de l'amour. Et on a parlé de cette pression qui est sur les jeunes. Si on n'a pas couché avec une jeune fille ou avec un jeune homme alors qu'on a 17 ou 18 ans, mais on est un idiot. Et parfois, certains vont le faire pour ne pas être des idiots. Est-ce qu'ils seront plus heureux? Certainement non. Ils vont même sûrement vivre les conséquences de cette légèreté, de cette désobéissance. Et en croyant être libre, en croyant que c'est bien et que c'est un peu mieux et qu'il y aura moins de pression en faisant comme les autres, ils vont se faire du mal. Et ils vont faire du mal. Leur santé va être affectée. Parfois leur santé physique et souvent leur santé psychologique, morale, parce qu'ils sont allés trop vite. Parce qu'ils n'ont pas écouté tous les conseils de leur père, tous les conseils de ce Dieu qui les aime, qui nous aime. Nous pourrons éviter bien des maladies en écoutant ce que nous dit le Père. Notre Père qui nous connaît, qui connaît notre corps, qui connaît notre esprit et notre âme, qui sait ce qui est bon pour nous. Mais lorsque nous n'arriverons pas à éviter la maladie, lorsqu'elle sera là, eh bien nous allons voir si Dieu veut bien nous délivrer de cette maladie ou s'il nous demande de rester dans cette maladie. Nous pensons évidemment à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu un ministère incroyable où, comme Jésus, il annonçait la bonne nouvelle et il guérissait les malades. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs à ses disciples. Allez, allez enseigner et guérir les malades et chasser les mauvais esprits, les démons. Et c'est ce que les disciples ont fait. Il s'est passé des choses incroyables. Et je l'ai raconté dernièrement, les gens prenaient même le mouchoir de l'apôtre Paul. Bon, je ne sais pas si ça m'aurait donné trop envie de prendre le mouchoir de quelqu'un, mais le mouchoir propre peut-être de l'apôtre Paul. Et en touchant les gens avec ce mouchoir, les gens étaient guéris. Jeudi soir, je ne sais pas s'il y a eu une multiplication de marchandages, de ventes de mouchoirs. Est-ce que je peux t'acheter un bout du mouchoir de l'apôtre Paul? Combien tu me le vends pour que je puisse guérir quelqu'un, que je puisse être guéri? On sent bien qu'on pouvait basculer vraiment dans quelque chose de magique. S'il te plaît, son mouchoir. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu avait décidé que par l'intermédiaire de cet homme qui était en relation avec lui, qui avant était persécuteur et qui est devenu apôtre, eh bien des guérisons extraordinaires allaient avoir lieu. Mais l'apôtre Paul lui-même n'a pas réussi à se débarrasser d'une écharde dans la chair. Que cette écharde soit morale, psychologique ou bien véritablement physique, certains disent qu'il avait certainement un problème aux yeux et que quand on voyait sur lui les traces de la maladie et que certains se moquaient de lui en disant « Ah, c'est ça !» C'est Paul qui guérit les autres, qui annonce l'évangile, qui parle avec autorité et qui n'est même pas capable de se guérir de sa maladie des yeux. Ou alors c'était une douleur morale qui le tenaillait et dont il n'arrivait pas à se libérer. Paul a prié 3 fois pour être libéré de cette écharde dans la chair. 3 fois, je trouve que c'est raisonnable quand même, c'est pas beaucoup. Mais pour lui, c'était beaucoup. 3 fois, il a demandé solennellement à Dieu de le libérer de cette écharde dans la chair. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplira dans ta faiblesse. Le grand Paul, l'apôtre Paul qui a vu tellement de guérisons et à qui Dieu a refusé une guérison extraordinaire parce que Dieu voulait que sa force se manifeste dans la faiblesse de Paul. Si nous voulons absolument le miracle, si nous voulons absolument la guérison physique, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Il nous demande souvent de passer par la croix. Ceux qui veulent tout le temps être guéris, ceux qui veulent tout le temps que leur vie chrétienne soit un sommet, un ensemble, une juxtaposition d'événements extraordinaires où tout est magnifique, où tout est victoire, ce sont ceux qui ne veulent pas passer par la croix, qui voudraient faire mieux et plus fort que Jésus. Ouais. Nous les chrétiens, souvent on dit « moi je suis plus fort que Jésus ». On n'oserait jamais le dire comme ça. Mais c'est ce qu'on fait. Moi, je ne veux pas de maladie. Moi, je ne veux pas de mort. Moi, je ne veux pas de croix. Mais Jésus a accepté de souffrir dans l'obéissance à Dieu. Et il nous demande d'accepter de souffrir. Nous avons des frères et des sœurs qui sont persécutés. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Ah, ben, tu es persécuté parce que tu n'as pas assez de foi. Prie un peu plus et tu seras guéri de ta persécution. Nos frères et sœurs sont persécutés. Et ce n'est pas par un manque de foi,
Il arrive que Dieu décide que des épreuves arrivent, des maladies, des persécutions. C'est lui qui décide. Il arrive aussi qu'à certains moments, et quand nous pensons à des miracles, à des guérisons extraordinaires, il arrive que des gens réalisent des prodiges qui ne viennent pas de Dieu. Vous savez, dans ce même évangile de Marc, au chapitre 13, on nous parle de ce moment où des faux prophètes vont réaliser des prodiges et des miracles semblables à ceux de Dieu. Et certains se détourneront même de la foi chrétienne pour aller vers eux. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Que le miracle, la guérison, ce n'est pas toujours, ce n'est pas absolument le signe de l'action de Dieu. Et vous savez, dans le livre de l'Exode au chapitre 13, Dieu dit même à son peuple qu'il y a des prophètes qui vont annoncer des événements qui vont se réaliser et ensuite ces prophètes vont entraîner le peuple de Dieu dans la désobéissance. Et Dieu va dire, c'est moi qui ai envoyé ces prophètes pour que tu vives une épreuve et pour que je voie si tu vas m'obéir. Alors que des gens qui ont annoncé des événements qui se sont réalisés vous demandent d'aller un peu loin de moi. C'est quand même incroyable cette parole. Dieu qui va permettre que des miracles se réalisent. Vous savez, ce qui permettait de voir si un prophète était un vrai prophète ou un faux prophète, c'était si l'événement se réalisait. Dieu est en train de dire qu'il y a des gens qui vont annoncer des événements, ces événements vont se réaliser, mais si ces gens qui ont accompli des miracles nous demandent de nous éloigner d'un iota de la parole de Dieu, nous ne les écouterons pas. Et nous ne sommes pas obnubilés par le miracle. Ce qui guide notre vie et notre foi, ce n'est pas le miracle. Sinon, nous marchons par la vue. Dieu nous demande de marcher par la foi, dans la confiance, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les maladies. Et quelquefois, Dieu va nous permettre de vivre des moments extraordinaires. Il va nous permettre d'être libérés de la maladie, de l'épreuve. Il y a deux erreurs que nous devons éviter, je termine là-dessus. Ceux qui ne croient plus que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui dans ce monde. Ceux qui ne croient plus que Dieu peut guérir maintenant de façon exceptionnelle, extraordinaire. Ils se trompent et c'est triste. Nous pouvons simplement demander à Dieu de guérir quelqu'un. S'il ne le fait pas, c'est qu'il l'a décidé. Mais l'autre erreur serait de penser que Dieu va tout le temps nous guérir. Que Dieu ne peut que nous guérir. Et l'autre erreur serait de penser sans cesse aux miracles, aux choses extraordinaires que nous voulons absolument. Nous voulons cela et nous disons bien Dieu nous le donnera. Dieu nous donnera ce qu'il a décidé. Et si Dieu accorde de temps en temps des guérisons et des miracles, c'est lui qui décide. Mais parfois notre témoignage sera encore plus extraordinaire quand nous persévérerons, alors que nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la maladie. Continuons à prier pour les malades, mais en ayant pleinement conscience que c'est Dieu qui décidera s'il guérit ou pas. Ou alors, dit autrement, c'est Dieu qui décidera comment il nous guérit. Parce que ce qu'il nous promet, c'est qu'il peut nous sauver, c'est qu'il peut nous pardonner nos péchés, et il n'y a rien de mieux. La priorité dans notre vie, c'est de régler notre problème avec lui. La priorité dans notre vie, c'est d'écouter Dieu par sa parole. Et toutes choses nous seront données en plus. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données en plus. Amen. Je vous invite à